Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, toujours en compagnie de Rémi Barré, de Thierry Moreau, de Pierre-Édouard Magnan et de Fred Hermel. Dans un instant, on va se poser cette question. Peut-on être heureux sans enfant? On attend bien sûr vos témoignages à la fois au 3216 et sur l'application RMC. Rubrique Direct Studio, il y aura également RMC s'engage pour vous. On parlera d'arnaque bancaire, en fait, avec une auditrice, Alexandra, qui a été victime de fraude bancaire, mais sa banque refuse de la rembourser. On essaiera de l'aider avec Amélie Rosic, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on terminera avec un très beau cadeau à gagner.
Oui, puisqu'à 2 mois du début de la Coupe du Monde de foot et à quelques heures du match France-Autriche, toute la journée RMC et Intersport vous offrent le tout nouveau maillot de l'équipe de France pour supporter les Bleus. Vous envoyez Bleu au singulier par SMS au 7-32-16. Bleu par SMS au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite aux chiffres du jour. 27% de la population mondiale n'a pas d'enfants. Problème médical, manque d'envie ou encore mauvais timing. Les raisons de ne pas avoir d'enfants sont nombreuses. Mais Rémi, est-ce que les gens sont satisfaits?
Difficile de répondre à cette question, tant les profils des parents ou des parents potentiels diffèrent. Mais il y a quand même certaines données, notamment les résultats d'une étude menée récemment par des psychologues d'une université américaine dans le Michigan. 5000 personnes quand même sans enfants ont été interrogées. Conclusion, celles qui ne sont pas parents par choix ne serait pas plus malheureuse ni heureuse que les autres. En France, selon les statistiques de l'INED, 5% des personnes en âge de procréer seraient aujourd'hui concernées par ce qu'on appelle l'infécondité volontaire, le choix de ne pas vouloir d'enfants. Mais attention, il est probable que ce chiffre soit minoré, car l'étude date de 2014. Or, avec l'inquiétude autour du dérèglement climatique, la tendance serait à la hausse. Pour preuve, d'après un sondage réalisé récemment par l'Institut YouGov, 24% des Français affirment être influencés par le réchauffement climatique sur leur décision d'avoir des enfants ou non, voire d'en limiter le nombre. Le nombre qui est par la plupart cité, c'est « moi j'en fais 2 maximum », notamment en raison des conditions, du réchauffement climatique, du dérèglement. Toujours d'après un sondage YouGov, publié il y a seulement maintenant quelques semaines, 13% des parents français affirment même, et là c'est lourd, regretter leur choix.
Oui, et ça c'est vraiment un tabou qui se brise. On voit de plus en plus de mamans qui déclarent
si c'est à refaire,
regretter leur choix d'avoir un enfant. Et c'est vrai qu'on ne voyait pas ça il y a quelques années. Peut-on être heureux sans enfant? Je me tourne vers vous, Thierry Moreau, qui en avait 2. Oui. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu être heureux sans avoir d'enfant?
Alors déjà, je ne regrette pas d'avoir eu mes enfants, premier point, parce que je ne suis pas dans les 13%. Deuxièmement, quand on a des enfants, c'est pour la vie. Petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Ça, c'est clair aussi. Maintenant, je comprends aujourd'hui que des gens, et je pense que peut-être si la vie avait fait que je n'avais pas d'enfants, je pense qu'on peut être heureux sans enfants. On sort déjà d'une longue période historique, en tout cas pour la France, judéo-chrétienne, où le cheminement classique, c'était on se fiance, on se marie, on a des enfants. Voilà. Et il y avait une pression sociale très forte. Moi, je refuse à mettre cette pression sociale sur mes enfants, par exemple. Je sais que je vois dans mon entourage des gens qui ont à peu près mon âge et qui poussent leurs enfants, qui sont en âge de procréer parce qu'ils veulent être grands-parents. Et ça je me refuse à faire ça. Je trouve ça aberrant. Aujourd'hui, mes enfants, je pense qu'ils réfléchissent notamment aux questions climatiques en se disant, est-ce que faire des enfants pour une planète qui va mal, est-ce que c'est un bon choix? Donc, il y a aussi d'autres choses.
C'est pas des enfants que pour la planète.
Non, mais ça rentre en ligne de compte, ça rentre dans la façon de penser et tous les éléments qui contribuent au timing, au moins au timing, en ce qui concerne le fait d'avoir un enfant ou pas. Donc, je comprends que ces préoccupations-là rentrent. Et en tout cas, voilà, je pense qu'on peut être heureux sans enfant. Oui.
Alors, Fred Hermel, vous êtes le seul sur ce plateau à ne pas avoir de progéniture. Est-ce que parfois ça vous trotte dans la tête quand même?
Ça m'a beaucoup trotté un moment. Maintenant, c'est trop tard.
Enfin, c'est trop tard.
Non.
Pour les garçons, c'est plus simple. Hein, vous savez.
Non, attendez. Mm. Tout le monde me dit ça. Mm. Je vais avoir 53 ans au mois de février. Moi, j'ai eu la douleur de perdre mon père à 13 ans. Je ne veux pas être un vieux père qui va mourir trop tôt, quoi. C'est-à-dire que d'entrée, ça veut dire que voilà, l'enfant que j'aurai, automatiquement, il va pas m'avoir longtemps, quoi.
Il peut donc, avoir 40 ans, hein,
tu peux. Oui,
oui, bah oui, 40 ou 50 ans.
Et si t'as, ouais. si t'as un enfant à 26 ans, tu peux.
Oui, bien sûr, oui,
il peut mourir deux
oui,
jours
mais
après.
La probabilité n'est pas la même, donc voilà.
Oui,
non, moi, c'est pas par choix, c'est la vie qui a fait que. Parce que pour moi, un enfant n'est pas un but. On m'a déjà proposé de faire un enfant. Une amie à Madrid m'a proposé de faire un enfant. Je lui dis non. Voilà, parce que je ne suis pas mon modèle.
Ça se propose comme ça, ça, en soirée, ça. Ça
bah oui, oui, pas, ouais, ouais, je dis non. Mais simplement, je pense qu'un enfant n'est pas un but. C'est la conséquence d'un amour. Moi, je ne suis pas resté assez longtemps avec une femme pour que cette idée d'enfant puisse apparaître. Est-ce que ça sera un manque? Oui, oui, parce que c'est une expérience de vie que je n'ai pas eue et je pense que j'ai été fait pour avoir des enfants. Après, je suis très heureux, je vis très bien, j'ai une autre vie parce que je n'ai pas d'enfants. Mais après, j'ai des compensations. C'est-à-dire que pour moi, l'idée de la transmission est très importante. J'ai la chance d'avoir un neveu.
D'accord.
Un neveu qui est la prunelle de mes yeux, qui sera mon héritier, qui est voilà donc et j'ai eu cet échange avec Daminou depuis tout petit. Il passe une semaine avec son tonton et parrain par an. C'est même quand j'habite en Espagne, c'est-à-dire que voilà j'ai une vraie relation. J'ai des filleuls, j'ai quatre filleuls, filleuls et filleuls, quatre et donc j'ai cette relation avec je veux dire de père un petit peu par.
Vous avez transposé en
de
fait.
De transposer
cette
voilà.
Paternité quelque
cette
part.
Cette paternité quoi donc ça. Mais il y a un manque bien sûr qui sera jamais comblé. Mais moi j'accepte ce qui m'a été donné donc. J'ai pas d'enfant, c'est tout.
Vous avez une fille de 9 ans, vous nous en avez parlé tout à l'heure, Pierre-Édouard Magnan, mais est-ce que vous comprenez quand même qu'un quart de la population, c'est énorme, aujourd'hui n'a pas d'enfant et il y a de plus en plus de gens qui n'en veulent pas, quoi.
Oui, parce que dans ce cas-là, en fait, il y a évidemment toutes les situations. Après, on a effectivement le droit de ne pas vouloir d'enfant. Enfin, je veux dire que la procréation ne peut plus être aujourd'hui un passage obligatoire. Et ce qui est l'essentiel, c'est de faire sauter la norme sociale. Et on va le dire aussi parce que on y pense aussi tous, notamment vis-à-vis des femmes, parce que je pense que l'injonction sociale, elle est beaucoup plus forte vis-à-vis des femmes en matière de maternité que vis-à-vis des hommes en matière de paternité.
Parce que nous, on a quand même il y a une date à laquelle
parce que biologiquement, un homme n'a à peu près pas de limite pour faire un enfant. Je dis à peu près parce que malgré tout, c'est quand même un peu moins facile à 70 qu'à 30. En revanche, les femmes, là, il y a effectivement une horloge biologique qui est ce qu'elle est. Mais donc, il faut effectivement faire tomber ça. On le fait. L'enfant est un choix. Il peut être d'ailleurs individuel ou à deux, c'est encore aussi un autre débat, mais là aussi, c'est pas forcément la volonté d'un couple. Après, c'est mon cas, et je pense qu'on peut être heureux. Alors moi, évidemment, moi j'ai une fille, je vais vous dire que je serais l'homme le plus malheureux du monde si j'avais pas ma fille. Mais en même temps, je ne pense pas que j'aurais raté ma vie et que j'aurais été malheureux et dépressif toute ma vie si elle n'était pas arrivée, parce qu'elle est arrivée, parce que j'ai rencontré la bonne personne, parce qu'à un moment on en a eu envie. Et après aussi, faire des enfants, il y a la question du réchauffement, je parle du réchauffement climatique, etc. Il y a aussi la capacité qu'on va avoir à les élever. Vous savez qu'aujourd'hui, la capacité à pouvoir leur offrir de réaliser leur choix. On peut pas savoir s'ils feront de longues études, on peut pas savoir s'ils feront des études à l'autre bout du monde.
On peut pas le savoir surtout. Mais
entre guillemets, on se dit, je veux avoir le moyen de les accompagner jusqu'au bout de leur choix et de leur parcours de vie. Et donc effectivement, en fonction de ces moyens, ça peut aussi justifier d'en avoir deux. Puis il y a d'autres choix, mais il se trouve que ma compagne est un peu plus âgée que moi, la grossesse a été un peu compliquée. Donc le jour de l'accouchement, enfin, on savait qu'il n'y en aurait pas de deuxième. Et je m'étais pas posé avant la question de dire est-ce que j'en veux un deuxième ou pas. Clairement, ça aurait été médicalement dangereux. Donc le sujet a été clos. En même temps, on est heureux comme tout, on a une fille et elle compte pour trois, donc c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors peut-être aussi parce qu'elle est toute seule, donc on fait tout ce qu'il faut pour qu'elle compte
possible.
Pour trois. C'est un autre débat, mais je veux dire, voilà. Donc là-dessus, il faut effectivement, en tout cas, ce qui est important, c'est de sortir de l'injonction, que ce soit un choix, que ce soit un moment de vie, et que par contre, qu'il n'y ait pas non plus, à l'inverse, que des gens ne cachent pas leur envie d'avoir des enfants parce que, pour des tas de raisons, et notamment on pense aux femmes de 30 ans quand elles cherchent du boulot, hein, c'est quand même un vrai sujet à chaque fois, il faut aussi que ce soit effectivement, par contre, il faut que ce soit possible, en gros que le champ des possibles soit ouvert, j'en veux pas, c'est mon droit, c'est mon choix.
Et qu'il n'y ait plus de tabou. Alors vous parliez du fait que pour les femmes, ne pas avoir d'enfants à partir d'un certain moment, c'est évidemment moins possible, et surtout il y a une injonction. On est avec Marie qui nous appelle de Marseille, et Marie qui n'a pas d'enfant, justement. Bonjour Marie.
Oui, bonjour, comment ça va?
Bien, et vous?
Bonjour, bonjour.
Impeccable.
Bonjour.
Impeccable. Écoutez, super. Alors Marie, vous faites partie de ces femmes qui n'ont pas d'enfant et qui sont heureuses sans enfant.
Ben oui, je suis bien. Écoutez, ça ne s'est pas posé. Je n'ai pas eu peut-être des relations. Je suis un peu comme Fred Hermel à ce niveau-là. Les choses ne se sont pas présentées comme je le voulais. Et puis bon, ma foi. J'en suis pas malheureuse, au contraire, je me donne à fond pour les enfants des autres, c'est-à-dire je suis tata de plusieurs, et puis du coup c'est top quoi, c'est top.
Mais est-ce qu'il y a un moment, Marie, où vous vous êtes dit quand même, là, il va falloir prendre une décision quoi, parce qu'à un moment l'horloge tourne et...
Non, c'est les autres qui mettent la pression.
C'est ça.
C'est les autres qui vous disent, ah mais c'est l'heure, il faut
la pression sociale.
Ouais, et puis si t'as pas d'enfant, comment tu vas finir seule, enfin, tous ces trucs-là. Mais en fait, non, pas forcément, quoi. Vous savez, vous avez des personnes qui ont des enfants et qui finissent seules, pareil. Hein.
Ça, c'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai.
Ouais, donc du coup, non, franchement, moi, écoutez, j'ai un chien, tout va bien. J'ai des amis, j'ai une vie sociale qui est remplie, donc non, il n'y a pas de raison que... Non, ça ne s'est pas posé. Et puis ça devient de plus en plus compliqué de rencontrer quelqu'un. Et là, maintenant, j'ai plus l'âge. Donc au moins, comme ça, c'est clair, quoi.
Et pas de regrets, jamais, Marie?
Ben non, j'en ai pas. Ça s'est pas présenté. Ben c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Je vais pas me faire du mal à me dire ah mais si j'avais non. De toute façon, la vie elle est devant, elle est plus derrière. Hein. À 51 ans.
Si, quand même. Il en reste encore pas mal devant, Marie.
Mais bon, je veux dire, je préfère donner mon temps à des personnes, à mes filleules, à tous les enfants que j'ai autour de moi, et je sais que j'en ai. Et ils me le rendent bien, par contre, eux. Voilà. Et de ce fait, non, franchement, tout va bien. Tout va bien. Mais c'est mal. Ce qui est gênant, c'est le regard des autres.
C'est ça, ce que j'allais vous demander. Elle est dure à gérer, cette pression sociale, Marie?
Ben, après, moi, je suis quelqu'un, je me fous de ce que pensent les autres, mais régulièrement, pendant une période, quand j'avais 40 ans, souvent, on vous jugeait, parce que vous n'êtes pas normal, en fait. Il y a quelque chose qui cloche chez vous.
C'est fou, ça.
Donc, alors qu'en fait, je suis tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Vous savez, vous avez des femmes qui ont des enfants qui ne savent pas s'en occuper, qui sont dans la difficulté, qui sont... Donc, qui dit vrai, je ne sais pas.
Bah, merci beaucoup pour ce témoignage, Marie, qui était plein de sincérité. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appelé au 32-16. Sofiane, également, est avec nous et nous appelle des Ulysses. Bonjour, Sofiane.
Bonjour, comment allez-vous?
Bien, et vous, Sofiane?
Ça va très bien.
Vous, Sofiane, vous n'avez pas d'enfant non plus?
C'est ça, 41 ans, pas d'enfant.
D'accord. Bon, vous avez encore le temps.
Oui. Mais bon, à faire un enfant à quel âge? À 40 ans, 50 ans, dans 20 ans, je vais avoir 60 ans. Je pense que j'ai raté le coche. L'occasion ne s'est pas proposée. Et du coup, les années passent. Et du coup, on voit les gens autour de soi avoir des enfants. Mm-hmm. Être marié, qui est le cheminement normal pour moi. Hein. C'est un cheminement normal. Transmettre son savoir, une éducation. Mm-hmm. Et rien que pour le nom de famille aussi. Rien que pour mon famille, moi je suis le seul garçon. J'ai pas de descendance, le nom de famille s'arrête. Donc du coup, ouais, c'est pesant, on y pense, ouais.
Et quand vous avez une relation, Sofiane, est-ce que c'est l'un des premières choses à laquelle vous pensez? Est-ce que ça peut être la bonne? Est-ce que je peux avoir un enfant? Ou alors est-ce que ça y est, vous dites bon bah pour moi c'est mort, c'est cuit, quoi?
Bah après les gens, les, comme j'ai dit, l'occasion s'est pas rencontrée. Les gens qui étaient en face de moi à l'époque, pas spécialement, et ça a peut-être pas, ça a pas duré non plus aussi, parce que être en couple aussi maintenant c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être en couple. Mais après demain il y a adoption, demain.
Ouais, c'est ça.
Oui, non, mais demain.
C'est ce que j'allais vous demander, en fait.
Il y a d'autres solutions de faire d'autres. Il y a la solution de faire des enfants. On va pas se cacher. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être marié, de vivre heureux, d'aller chercher ses enfants à l'école, de les amener au sport. Moi, je vois des gens autour de moi, ils ont des enfants et c'est vrai qu'on y pense. On se dit merde, mais je pense sincèrement, hein, je le dis Estelle, je pense avoir raté quelque chose. Ouais, je pense avoir. Je dis pas raté ma vie, mais je pense avoir raté quelque chose.
Mais encore une fois, hein, Sofiane. Après, moi, je trouve ça très touchant ce que vous dites, Sofiane. Mais
bah, parce que vous n'avez pas l'air malheureux.
Sofiane, moi, j'ai vécu le cas personnellement. J'ai eu un compagnon avec qui j'ai eu un enfant très tard, et ses enfants, le plus heureux du monde, ils s'en occupent énormément. Et je veux dire, c'est un papa extraordinaire. Et à un moment, là, je vous le dis, mais je parle jamais de ma vie perso, mais parce que votre témoignage me touche. Mais je peux pas vous dire qu'il y a pas d'âge pour faire des enfants, mais vous pouvez faire un enfant à 50 ans et votre enfant sera extrêmement heureux et vous serez un papa. Pas comblé. On peut pas se mettre des barrières de l'âge en disant à 45 ans c'est mort.
Oui, mais à 50 ans, quand on n'a pas eu. Avoir un enfant à 50 ans, quand on avait déjà eu. Mais commencer à avoir des enfants à 50 ans,
mais
je pense qu'il y a des
plus.
Oui, mais sauf que Sofiane, tu ressens.
C'est
Sofiane,
la femme de ta vie. Vous avez tous les deux envie d'avoir un enfant.
Oui, oui. Et Sofiane,
rationnellement, t'as pas tort. On se dit parce qu'il aura 20 ans, j'aurai 60 ans.
Est-ce que tu seras un plus mauvais papa à 50, 64 ans?
C'est quoi, Sofiane? Sofiane, on le sent.
question, je me permets d'intervenir parce que je suis aussi au père de famille, on a le même âge. Sofiane, enfin à peu près, mais Sofiane, on sent qu'il a le désir.
Bah c'est ça.
Et à partir du moment où tu as le désir, et on l'entend dans ses propos, c'est quelqu'un de totalement construit, etc., il est responsable, on peut comprendre qu'il y a un manque.
Oui, mais après, il y a un moment, le désir, il disparaît. Moi, j'ai plus ce désir d'avoir.
Ça dépend si tu rencontres la femme de ta vie.
Il est plus jeune que toi. Mais il a 40 ans.
Oui, c'est pour ça. Oui, il y a une grosse différence. À 40 ans, c'est autre chose. Moi, j'ai 53.
Moi, je suis sûr que vous avez toute la vie devant vous, Sofiane. Vous verrez, vous nous rappellerez et vous nous direz, ça y est. Et voilà, il ne faut pas se mettre de barrière, Sofiane.
Non, je le ferai. Mais bon. Voilà, il y a un manque. Voilà, des gens qui se disent oui, j'ai écouté Marie. Marie, elle vit à Marseille, elle vit dans une des plus belles villes du monde. Bien sûr, elle a la plage, le soleil, bien sûr qu'elle pense à autre chose.
Ça remplace pas.
Non, mais nous qui vivons à Paris, après voilà. Mais bon, après c'est aussi le milieu social où on vit. C'est vrai, moi j'ai des amis qui sont mariés, des enfants de 16 ans, 20 ans. Je me dis bon. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté mon témoignage.
J'ai été très touché, Sofiane. Et moi aussi, Sofiane, je vous embrasse.
Je vous embrasse très fort et faites attention à vous.
Vous aussi, merci Sofiane.
Au revoir, Sofiane.
Notre invitée sur ce débat, c'est Edith Vallée. Elle est psychologue et spécialiste de la question des femmes, justement, qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Merci Edith Vallée d'être avec nous.
Oui, bonjour, je suis ravie.
Bonjour.
Eh ben nous aussi. Alors c'est bien parce qu'on a des témoignages extrêmement différents dans cette émission. Moi, j'ai une question qui peut paraître bête, mais c'est vrai qu'on est éduqués depuis des années, nous les femmes, avec le fait que quand vous lisez des contes pour enfants, on vous dit que vous allez être une femme, vous allez vous marier, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui peuvent ne jamais vouloir d'enfants? Est-ce que c'est possible?
Ah oui, absolument. Ça devient de plus en plus fréquent. Et je voudrais situer le débat, comme l'a fait quelqu'un d'ailleurs, en termes de désir, il y a le choix. On a beaucoup parlé au début des témoignages de choix. Et moi, dans ma vie, forcément, je rencontre, en accompagnant les femmes et des hommes aussi qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, je rencontre évidemment le désir, c'est-à-dire une forte inclination inexpliquée, inexplicable pour la paternité ou la maternité, ou puisque personne n'est identique à une autre personne, ou le désir de se déployer vers complètement autre chose que la maternité. Moi, j'ai rencontré des femmes qui vivaient, des couples qui vivaient dans une union telle qu'il n'y avait pas de place pour un enfant. C'est un enfant était perçu comme
perturbateur.
Oui, un perturbateur. Il aurait dissocié ce couple. C'est le cas aussi pour des artistes qui sont porteuses d'une œuvre. Eh bien, voilà, c'est un déploiement dans l'union, mais il y a aussi un déploiement dans l'action des personnes qui se donnent de tels enjeux qu'elles y trouvent un plus de vie à la vie. Ce sont les entrepreneuses, mais aussi des journalistes très très curieuses de la vie. Et encore des personnes qui, alors là c'est en négatif, qui ne sont pas attirées par un désir, mais qui sont fondées, qui fondent leur vie sur un refus. Je ne veux pas continuer le monde tel qu'il est, exactions, violences, etc. Ou bien je veux couper avec la chaîne des générations qui m'ont précédée parce que je ne veux pas transmettre un mal-être que moi j'ai reçu, dont je suis héritière. Et ces personnes-là se déploient dans l'engagement. Elles s'engagent sur un plan écologique ou militant de toute façon. Donc les femmes ne sont absolument pas pareilles. Sauf que, je vais dire, il y a un petit bémol. On observe souvent chez des, on peut observer chez des femmes autour de 50 ans une nostalgie. Des femmes qui ont vraiment fait le choix, qui ont vraiment été portées par le désir d'une réalisation de soi ailleurs que dans la maternité. Et certaines disent, si j'avais su, etc. Mais à ce moment, et qui sont nostalgiques et un petit peu malheureuses, mais elles dépassent les 50 ans, heureusement. Et la non-maternité apparaît vraiment comme un faux prétexte à un mal-être d'une vie qui se trouve à ce moment-là, c'est vraiment observable, qui se trouve privée d'un épanouissement affectif. Il faut interroger l'épanouissement affectif.
Alors, on est avec également Alvin, qui nous appelle de Villeneuve-d'Ornon. Bonjour, Alvin.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes.
Bonjour.
Et vous aussi, vous n'avez pas d'enfant, Alvin.
Et c'est bien ça. En fait, j'ai pas d'enfant, c'est ce que je disais à votre collaborateur au standard.
À Thomas.
Et je trouve que, bon gré mal gré, même si on peut adorer pour ses enfants, pour ceux qui en ont du moins, je trouve que ça, c'est une contrainte. On a beau se persuader du contraire, on peut les
aimer. Ah bah oui, aimer, oui, c'est une contrainte, choisir. Oui. Mais...
Voilà, mais donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le reconnaître de manière très ouverte.
Enfin, c'est aussi un bonheur, quoi. Oui. C'est les deux.
Non, mais c'est un bonheur. Mais après, par exemple, vous voulez voyager, parce que moi, j'étais dans la fonction publique avant.
Ouais.
Et j'ai pris une disponibilité, ce qu'on appelle un congé sabbatique, pour faire un tour du monde. Et je pense c'est top. Et puis, mais je pense que ça aurait été une organisation différente si je l'avais fait, par exemple, s'il y avait une famille, par exemple.
Ah, oui. Ah bah c'est sûr que oui, avec des enfants. Ah bah non, mais partir en voyage avec des enfants, même pour un petit voyage, quand vous avez un enfant qui a 6 mois, mais non, mais c'est l'enfer sur terre. C'est-à-dire qu'il faut prendre la poussette, le lait en poudre, les biberons, les couches. Mais vous avez l'impression de partir en bus, quoi. Enfin, c'est un truc. Vous avez l'impression d'être submergé.
Bah,
oui. Oui, mais il y a beaucoup de bonheur aussi, quand même, Alvin. Quand votre petit bébé, tout d'un coup, il vous regarde, il vous sourit, et puis là, vous dites ah, bon, bah c'est pas grave.
Il n'y a pas de problème. Mais en fait, moi, je suis pas gaga devant les enfants. Il y a des gens, ils sont là, t'as vu la petite mimine, t'as vu les petites mains qu'il a. Moi, je trouve ça très beau. Hein. C'est peut-être la plus belle chose qui puisse exister sur Terre. C'est pas le problème. Hein. Mais moi, j'ai pas ce côté gaga devant les enfants. Et puis,
non plus.
Voilà. Merci.
Est-ce que vous êtes en couple, Alvin ? Non
plus. J'étais en couple il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Mais j'ai rencontré des personnes qui en voulaient. Et puis, c'est ce que je racontais au standard aussi. Et il faut pas les faire pour de mauvaises raisons. Enfin, je m'explique. Parce que j'ai rencontré une personne en 2008. Et en fait, elle avait des problèmes de troubles alimentaires. Mm-hmm. Et un soir, par exemple, dans une discussion comme ça autour de la table, elle me dit, peut-être que le fait d'avoir un enfant, ça m'aidera à résoudre ses problèmes. Moi, ça m'a fait un écho.
Oula. Ah, oui, non.
Je me suis dit, faut pas que ça serve de thérapie. Non. L'enfant, faut pas le prendre en otage, justement. Et je trouvais ça dommage. Il faut pas le faire pour de mauvaises raisons. Il y a tellement de pression sociale. Moi, j'entends beaucoup d'histoires où on sent, après, je peux me tromper, mais que des personnes le font sous la pression sociale ou familiale.
Oui, mais c'est ce qu'on disait. Mais vous avez raison, et on parle beaucoup de cette pression sociale, notamment sur les femmes, qui est absolument insupportable. Bah, merci, Alvin, et puis continuez à être heureux comme ça, puisque vous avez l'air d'être très heureux. Marlène nous appelle de Chartres, et Marlène, eh bien, elle fait partie de ces femmes sans enfants qui ont eu une grosse pression sociale. Bonjour, Marlène.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Bonjour.
Du coup, oui, je voulais intervenir parce que
vous faites bien.
Moi, c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées quand j'avais la trentaine, et en fait, j'ai pris le temps de réfléchir, de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas, et effectivement, non, je veux pas d'enfant du tout. Mais par contre, c'est une question qu'on nous pose régulièrement, en fait, quand on commence à rencontrer des gens, limite la première question qu'on nous pose, parce que du coup, je suis en couple, on nous dit, vous avez des enfants, et quand on dit non, on dit, pourquoi, ou t'as encore le temps, il te reste 2 ans, mais non, en fait, moi, je veux pas d'enfant,
et on
est très heureux comme ça, et on est sur la même longueur d'onde avec mon compagnon, donc voilà, c'est un choix.
Et Marlène, cette pression sociale, elle est plutôt familiale, elle est plutôt de l'entourage amical. Qui vous met cette pression, justement ?
J'irais plutôt l'entourage. Mes parents, ils se sont fait une raison par rapport à ça. Moi, ma sœur, elle a un enfant. Voilà, ils en sont contents. Ils m'en ont parlé un petit peu au début.
Ça
et puis
ah bon, là, bah, sinon, voilà.
Ils m'en ont parlé un peu au début, mais maintenant ils ont un peu lâché l'affaire, quoi. Et maintenant, sinon, en fait, par exemple, moi, j'ai mon esthéticienne. À chaque fois que j'y vais tous les mois, par exemple, elle m'en parle. Elle me dit bon, alors, toujours pas d'enfant ? Bah non.
Ah oui, tous les mois, oui, ça fait beaucoup, oui.
Bah, changer d'esthéticienne. Ouais,
en fait, c'est un sujet de conversation qui fait partie de la vie de tous les gens, mais ceux qui n'en ont pas, en fait, c'est limite, on sait pas trop quoi se raconter, quoi, en fait.
Mais pourquoi vous lui dites, alors moi, c'est pourquoi vous dites pas à votre esthéticienne, écoutez, excusez-moi, je ne veux pas d'enfant, en fait, donc arrêtez de me poser la question, tout simplement, quoi.
Bah oui, non, mais moi je lui ai déjà dit non, mais j'en veux pas, ça, c'est réellement un choix, mais ouais, à chaque fois c'est non, vous avez toujours pas changé d'avis. Bah
non, c'est vraiment dingue,
vous changez d'esthéticienne.
Oui, c'est ça. Ouais,
elle fait quand même plutôt bien son boulot, je vais la garder, mais ouais, voilà, à partir du moment où c'est notre choix, ouais, voilà, faut nous laisser tranquille, et puis il y en a plein d'autres qui en font pour nous, hein, donc voilà, et puis j'ai même eu une fois une réflexion, bah oui, mais tu te rends compte, toi t'as pas d'enfant, t'en veux pas, et tu penses pas à toutes celles qui ne peuvent pas avoir d'enfant, enfin je suis désolée, les utérus c'est pas des vases communicants non plus, quoi, hein.
Non,
moi je vais avoir un enfant que ça va permettre à quelqu'un d'autre dans le monde d'en avoir un aussi.
Non, puis surtout c'est votre choix, enfin je veux dire, voilà.
Oui, vous avez l'air épanouie, donc c'est surtout ça le principal.
Elle est super, Marlène.
C'est le principal, mais je suis totalement épanouie, hein. Après,
mais ça se sent.
Je m'occupe de mes petits neveux, voilà. moi ça me suffit, ça me convient, et puis puis quand on part en vacances on est peinards à deux, quoi, c'est très bien.
Mais ça c'est pas mal non plus. Ouais, ça je comprends, Marlène,
c'est vrai que
des fois on a hâte qu'ils grandissent.
Mais oui, ce que dit Marlène ou Alvin tout à l'heure, un enfant ça bouscule quand même le quotidien d'un couple. C'est le centre de gravité n'est plus le même.
C'est ça,
ça c'est une réalité.
Comme dans Tanguy où les parents veulent absolument qu'ils quittent le domicile parce que c'est bon, ça y est, c'est fait, quoi.
Même ces enfants qu'on adore, des fois ils sont chiants, enfin je veux dire, des fois la vie, ouais. Ça, c'était bien.
Les enfants pas chiants, ça n'existe pas.
Oui, là, on est
Dieu sait que j'aime les miens.
Ouais. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, après, il faut être lucide. Oui, c'est pas le pays des bisounours, hein, les enfants. Non.
Exactement.
Exactement. Merci, Marlène, pour ce témoignage plein de fraîcheur.
Oui.
J'ai adoré Marlène, j'ai trouvé super. Et merci à Edith Vallée, notre invitée sur ce débat. On vous a posé la question, tiens, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Peut-on être heureux sans enfants?
Mais s'il y a des enfants qui nous écoutent, qu'ils soient prévenus, c'est oui à 79%.
Ça, c'est les gens qui ont écouté Marlène. Voilà. Ils se sont dit, elle a l'air super.
C'est que des parents d'ados et de nourrissons qui font pas leur nuit quand elles
font. C'est ça, exactement. Allez, dans un instant, Amélie Rosic, RMC s'engage pour vous. On va tenter d'aider Alexandra. Elle a été victime de fraude bancaire et sa banque refuse de la rembourser. Il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce cas. Tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi, on est ensemble jusqu'à 15h et c'est l'heure d'accueillir Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi,
RMC s'engage pour vous.
Et Amélie, aujourd'hui vous avez été contactée à l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr, par Alexandra. Alexandra qui a été victime de fraude bancaire.
Oui, c'était un vendredi 13, on est au mois de mai. Alexandra se réveille à Londres où elle travaille, hallucinée. Dans la nuit, son compte en banque a été siphonné, 15 000 euros évaporés, 23 paiements effectués en moins de 2 heures au Brésil, où elle avait passé des vacances 2 mois plus tôt. Je vous rappelle qu'elle est à Londres à ce moment-là.
La carte est ici, je suis ici. La banque me dit qu'il n'y a pas de fraude, alors que n'importe qui voit les 23 transactions à la suite en 2 minutes d'intervalle, dont 20 avec exactement au centime près le même montant. Qu'est-ce qu'il faut de plus, en fait? Enfin, 15 000 euros, ça représente des années d'économie, donc il va falloir retravailler pour récupérer ce qu'on pensait nous appartenir, en fait.
Le compte d'Alexandra est chez Revolut. C'est une néobanque en ligne qui refuse donc de la rembourser.
La réponse du service client, quand on insiste un petit peu, c'est non, il n'y a pas de plafond de paiement, c'était à vous d'en fixer un. Et puis, quand vous revenez de pays comme ça, en fait, il faut juste que vous annuliez votre carte et vous en redemandez une autre. Mais personne à aucun moment ne m'a suggéré ça. On marche sur la tête, quoi.
Bien sûr, on va au Brésil et puis derrière, on enlève toutes ces cartes bleues et puis on en remet d'autres parce que c'est un pays compliqué. Non, mais c'est incroyable. Exactement. Mais la banque, elle lui dit quoi en gros à Amélie, que c'est de sa faute?
Ah oui, tout à fait. Sauf que le code monétaire et financier est très clair à ce sujet. La banque doit rembourser le client qui dénonce une fraude. Et d'ailleurs, en fait, c'est à la banque de prouver que le client dénonce calomnieusement une fraude. Voilà. Donc bref, la charge de la preuve incombe à la banque. Alexandra, en plus, elle a fourni des preuves et elle n'est pas obligée de le faire. Sa carte bancaire, qu'elle a toujours en sa possession, donc visiblement elle a été victime d'un clonage de carte bancaire, des photos avec géolocalisation qui prouvent sa présence à Londres où elle habite et où elle travaille, et une attestation de son employeur. Revolut a donc fini par lui répondre en lui faisant une proposition, un remboursement de la moitié des 15 000 euros.
Mais bien sûr,
sans aucune justification. Pas de justification.
Non, mais alors, Amélie, j'imagine quand même que vous avez tenté de joindre Revolut, hein, bien sûr.
Oui, et c'était quelque chose. Cette néobanque donc britannique opère effectivement en France, mais depuis la banque lituanienne. Oui, je vous jure que c'est vrai.
Comme c'est pratique.
Après plusieurs échanges de mails, parce qu'évidemment, c'est en ligne, donc tout passe par mail. Mmh. On a fini par des moyens détournés, par avoir au téléphone une chargée de communication basée en Espagne qui parlait vaguement français, et elle s'est bornée à nous répéter le communiqué qu'on avait reçu quelques heures plus tôt et qui disait en résumé: une enquête est en cours, circulez, il n'y a rien à voir. Ok, super. Alexandra, elle, a porté plainte évidemment pour escroquerie. Son avocate, Maître Léotier, a envoyé une mise en demeure à Revolut hier soir, qu'elle est dans son bon droit, on la rappelle. Et l'association France Conso Banque, que nous avons contactée, envisage, elle, carrément une action collective.
Car Alexandra n'est pas seule.
Exactement. C'est pas la première fois qu'une faille de sécurité, parce que c'est bien ça dont il s'agit, une faille de sécurité. Eh oui. Normalement, quand il y a plusieurs paiements pour la même somme à 2 minutes d'intervalle,
on demande de valider.
Exactement, c'est censé bloquer. Donc c'était pas la première faille de sécurité, mais pas la dernière non plus, parce que hasard du calendrier, donc ça c'est bien plus tard, parce que la fraude dont je vous parle c'est au mois de mai, mais il y a 12 jours, la néobanque a été victime d'un piratage et les données de 50 000 clients ont été volées. Alors, la banque nous a assuré par mail et au téléphone avec l'espagnol qui parle vaguement français qu'il s'agissait de données d'identité, mais pas de code PIN, enfin code de sécurité de la carte bleue, voilà. Bon, écoutez, on verra. On continue évidemment d'insister. Et si quelqu'un chez Revolut nous écoute, n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui. Parce que nous, on reviendra vers vous.
Comment ça se passe avec la SNCF et le paiement de notre auditrice d'il y a deux jours qui réclamait ses 290 euros dans son bon droit?
Chère Estelle, c'est toujours en cours. Non. On a refait un petit mail à la SNCF il y a deux heures tout pile, en leur expliquant ce que l'on vous a expliqué ici et en leur reposant la même question. Quand est-ce que vous allez faire un geste pour Fabienne, notre auditrice? Et quand est-ce que vous allez modifier l'application SNCF Connect qui n'est pas intuitive? On attend la réponse.
Oui. Mais on va leur poser la question tous les jours.
Tous les jours.
Voilà. C'est ma nouvelle
marotte. À défaut de réponse, on en reparle demain.
Oui, exactement. Ah bah bien sûr.
Exactement.
Et sachez que je ne lâche jamais rien. Donc, il faut que la SNCF le sache. Oh, faut nous répondre rapidement. Parce que sinon,
y compris des mauvais tuyaux au cours.
Ça peut durer des années, cette petite blague.
Oui.
Merci, Amélie Rosic. Et puis, on vous l'a dit dans cette émission, il y a un magnifique maillot à gagner, Rémi.
Le tout nouveau maillot de l'équipe de France pour supporter les Bleus à deux mois de la Coupe du Monde.
Eh oui, dès ce soir contre l'Autriche. Et on est en ligne avec Angélique. Bonjour Angélique.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Angélique, vous faites quoi dans la vie?
Je suis chauffeur taxi ambulancière.
Ah écoutez, super Angélique. Et vous aimez l'équipe de France?
Oui, 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 l'équipe de France, le foot en général, j'adore, donc c'est génial.
Eh bien écoutez, oui, c'est génial parce que vous remportez ce tout nouveau maillot des Bleus, Angélique. Il est pour vous, on vous l'envoie très vite.
Super, merci beaucoup Estelle, merci beaucoup, ne changez rien, continuez comme ça.
Eh ben, merci
beaucoup. Le nouveau maillot des Bleus sur RMC avec Intersport et rejoignez la grande famille bleue. Intersport, distributeur officiel de l'équipe de France de football.
Voilà la grande gagnante de ce maillot des Bleus qui joue ce soir face à l'Autriche. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi et dans cette dernière partie, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on va commencer avec l'exclu du jour.
L'exclu du jour, le basketteur meneur des Bleus, Thomas Hurtel, sera exclu de l'équipe de France pour les prochaines échéances internationales, incluant les JO de 2024. Son tort, avoir signé avec le club du Zénith Saint-Pétersbourg. C'est ce que vient d'annoncer... Pardon.
Un club russe.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que vient d'annoncer la Fédération française. Le bureau fédéral de la FFBB a en effet décidé le 28 juillet dernier que les joueurs français engagés dans des clubs russes ou bélarusses ne seraient plus sélectionnables jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine.
C'est une bonne décision, ça, Thierry?
Ben, ça dépend à quel moment il s'est engagé avec ce groupe, ce club russe. Moi, j'ai pas l'impression.
À l'instant, il y a quelques jours.
Ouais, deux jours.
Ah oui, donc il a décidé, là, il y a quelques jours, d'aller jouer dans un club. Alors, effectivement, ça peut poser problème. Nous sommes en guerre, enfin on est co-belligérant, très clairement.
Officiellement,
si, on est co-belligérant,
non.
Donc ça pose problème. Après, c'est dommage que ça tombe sur lui, mais je trouve effectivement
c'est
très
dommage que ça tombe sur lui, mais il n'y a pas d'interdiction. Enfin, il ne me semble pas que les fédérations aient dit aux joueurs interdiction de signer dans un club.
Ah bah, je le 28 juillet, c'était dit.
Il a même signé
le 28 juillet, c'était dit.
Il a signé un document.
Moi, ça pose vraiment question. Officiellement, la France n'est pas en guerre contre la Russie, ce que je sache.
Oui.
Ça pose une vraie question. Je pense même qu'il peut aller plaider sa cause devant un tribunal international. Parce que.
Je pense qu'il n'y ira pas.
Mais... Non, il n'y ira pas, mais ça pose vraiment question. Au nom de quoi on peut empêcher un citoyen français d'aller travailler dans une entreprise étrangère russe qui n'est officiellement pas en guerre contre la France.
Sauf que, je te rappelle que la communauté européenne a prononcé un certain nombre de sanctions à l'égard de la Russie. Et donc, je pense que, de manière collatérale, alors c'est collatéral et donc peut-être pas
t'as des
juridiquement...
T'as des Français qui bossent à Leroy Merlin en Russie, par exemple.
Peut-être que, sauf que, justement, il n'y a plus.
Il n'y a
plus,
mais il y a eu des entreprises Total et encore présentes dans une partie de la Russie. Jamais l'État français n'a imposé à Total qu'aux Français.
Je suis d'accord avec Fred que je pense que ça se plaide.
C'est surprenant.
Je pense que ça se plaide. Mais c'est vrai que ça fait un peu tâche dans le tableau d'aller aujourd'hui.
Très, très bien.
Et puis,
il n'y va pas pour découvrir le pays.
Est-ce que ça fait pas quand même un peu tâche aujourd'hui qu'un membre de l'équipe de France joue pour un club russe?
C'est une question d'image, mais est-ce que c'est légal
juridiquement, c'est à mon avis,
c'est pas la limite de l'interdire.
Évidemment que ça fait tâche. Après, je trouve des fois qu'on a quand même tendance à mettre beaucoup de choses sur les épaules de sportifs, peut-être plus que la largeur de leur dos. Je veux dire, on ne va pas demander aux sportifs d'être des héros, des symboles de morale, des saints, etc. On peut des fois leur tomber dessus et à raison, sauf si c'est des personnages publics, ils ont une responsabilité qui n'est pas tout à fait la même que quelqu'un qui n'est pas connu. Alors que là, enfin, sauf, je suis pas un spécialiste du basket, enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait un joueur de l'équipe de France de football en termes d'aura médiatique qui n'empêche que. Après, il est évident que c'est sans doute pas très pertinent. Mais c'est son choix. Cela dit, il l'a fait en pleine connaissance de cause, puisqu'il avait, paraît-il, j'ai entendu, je crois hier sur une à la radio, qu'il avait signé un engagement au mois de juillet, etc. Il l'a fait en connaissance de cause. C'est sa responsabilité. Après, c'est pas une raison. Je vais me pardonner une analogie, mais ce sera pas une raison pour le tondre le jour où il rentrera en France. Il faut aussi raison garder. Ça n'est, c'est pas du tout méchant, hein, mais ça n'est qu'un joueur de basket. Il fait son travail, mais il décide d'aller chez un autre employeur. C'est pas lui qui. Ça n'a aucun impact sur le fait que les Ukrainiens vont réussir à virer les Russes de leur territoire.
Il va pas prendre les armes non plus.
Les tennisman français qui vivent en Suisse ou je sais pas où pour pas payer d'impôts, ils continuent à défendre.
Ça fait pareil.
Bah oui, mais pas en guerre avec la Suisse.
Comment?
On n'est pas co-belligérants avec la Suisse.
Non, mais je veux dire, les grands sportifs français, ce qu'allaient exiger fiscaux, défendent encore les couleurs d'équipe de France. Donc, faut pas.
Le filtre du jour.
Le filtre du jour pour éviter aux femmes de recevoir malgré elles des photos de sexe masculin ou des images non sollicitées contenant des éléments de nudité en général. Instagram travaille sur une nouvelle option permettant de filtrer les messages privés selon les tests réalisés en cas de contenu problématique détecté. L'utilisatrice voit apparaître une version floutée de l'image avant de choisir si elle veut effectivement la voir apparaître en détail ou non.
Bah, excusez-moi. Alors, ça m'arrive malheureusement de recevoir ce type de photos que je ne souhaite pas. Hein. Je le dis aux gens qui nous écoutent.
C'est pas sollicité dans
tout
cas.
Non. Mais une fois, j'en ai reçu une à 7h du matin et je me dis, mais en fait, à quel moment le mec se dit, tiens, ça va lui faire plaisir. Enfin, je veux dire.
Oui, c'est donc.
Le timing n'était pas le bon. Rien n'allait. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, moi, ça m'arrive de recevoir des trucs et il y a marqué contenu indésirable. Et en fait, je peux pas. Enfin, je ne vais pas cliquer dessus. Mais je veux dire, le contenu est déjà indésirable. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas nouveau comme truc.
Tu peux faire un filtre peut-être directement sur ton téléphone.
Non, je n'ai pas de filtre. Je n'ai pas de filtre sexuel.
Le téléphone sans le filtre à café.
Mais non, il y a marqué contenu indésirable.
Sur tes configurations générales, contenu sensible.
Voilà, c'est les configurations.
Non, indésirable. Bah, je ne vais pas vous en montrer maintenant parce que je les efface. Mais...
Sans façon.
Oui. Donc ça m'étonne. Mais enfin, c'est quand même une bonne chose.
Et tu fais quoi à ce moment-là?
Oui, mais c'est quand même.
Je fais quoi? Je passe. J'efface.
Tu bloques?
Non, mais,
On en rit.
Je reçois pas tous les deux secondes.
On en rit, mais ça peut être du harcèlement.
Exactement.
Bah oui, mais non. Oui, monsieur.
C'est affligeant. Enfin,
c'est affligeant.
Ce qui est affligeant, c'est quand c'est des jeunes filles mineures qui reçoivent, parce que ça arrive.
Là, c'est même potentiellement délictueux, voire plus. Mais de toute façon, c'est affligeant de la part de l'envoyeur. Enfin, c'est.
Non, mais le mec, il a quand même.
J'ai envie de dire, quel bonheur d'être un homme. J'ai reçu.
Et surtout, en fait, je ne comprends. Vous êtes des garçons, vous pouvez peut-être me répondre, mais à quel moment
on
se dit que ça peut nous faire plaisir,
non,
quoi.
Non. Je pense que personne. Non. Je me fais la voix de mes copains. On ne comprend pas non plus.
Non. Bon, je préfère que vous ne compreniez pas. L'extinction du jour.
Le comité des Champs-Élysées vient de décider de participer au plan de sobriété énergétique souhaité par le gouvernement face à la flambée des prix de l'énergie. Les enseignes de l'avenue pourraient ainsi éteindre leurs éclairages au plus tard à 22h et cela immédiatement pour les fêtes de Noël. Les illuminations s'éteindront chaque soir à 23h45 au lieu de 2h du matin habituellement.
Je sens que ça vous scandalise, Frédéric Hermel.
Mais non, mais si. En plus, on a eu Stéphane qui nous expliquait justement qu'aujourd'hui la consommation de lumineuse grâce au LED, elle est très très peu importante finalement dans le
gaz. Il y en a beaucoup.
Oui, d'accord. Mais enfin, c'est quelques semaines pour Noël.
Oui.
Bah, allez-y, brûlons les Champs-Élysées et puis voilà.
Oh, c'est parce qu'on le dit.
Mais à un moment, enfin,
est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça
veulent tout nous enlever? Ils veulent tout enlever la beauté des Champs-Élysées? C'est aussi ces belles boutiques.
Il y a deux réponses.
Avec de belles fringues et tout ça. Il y a une sorte de
déjà plus.
Il y a moi, je veux bien qu'on défende la planète, mais qu'on ne tue pas notre culture non plus. Quoi.
Non, mais enfin,
les boutiques des Champs-Élysées, culturellement.
Les boutiques des Champs-Élysées, je pense qu'on peut s'en passer, tu vois, de la lumière dans les boutiques.
Les fast-foods sont éclairés toute la nuit, franchement.
C'est beau.
Si ça fait partie du truc.
Oui, d'accord. Mais enfin, bon,
quand c'est tout noir, j'aime pas.
La déco de Noël, à la limite, il y a un sujet qui se discute parce que c'est très ponctuel. Et en plus, t'es pas obligé de commencer ta déco de Noël le 30 octobre et de la terminer le 25 mars. Donc, ça, c'est déjà une chose. Donc, si tu mettais la déco de Noël à Noël, ce serait déjà bien. C'est-à-dire que tu commences, mettons, le 15 décembre et tu termines le 15 janvier et puis voilà.
Mais non, mais en plus, les vitrines, en général, elles sont décorées pour Noël. Donc, ça participe du truc.
Oui, mais est-ce qu'à 23h45,
c'est pas une heure? Non, c'est
22h les boutiques.
22h maintenant les boutiques, mais au moment de Noël, 23h45. Oui. C'est quand même assez raisonnable. Oui. Je voudrais juste
faut faire cet effort.
Cette lutte pour le réchauffement climatique, elle va s'accompagner de mesures fortes, efficaces et aussi de symboles. Oui. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'un sans l'autre. Oui. C'est-à-dire que il y a un moment, il faut que certains symboles, alors tu peux dire c'était mieux avant, Il y a certains symboles dont, auxquels on sera obligé de renoncer. Je pense que ça fait partie de ça. Et franchement, si à 23h45, les illuminations de Noël s'éteignent sur les champs, ça va pas m'empêcher d'être heureux sur les champs.
Oui, en plus, toi, déjà, tu chauffes à 23, donc tu peux à un moment faire un petit effort.
Si tu chauffes à 20, on laisse
les Champs-Élysées.
Je peux avoir combien de boutiques, combien de LED je peux avoir?
Pierre-Edouard Magnan, ça va plutôt dans le bon sens?
Oui, on est bien dans l'ordre du symbole, c'est-à-dire qu'on va pas jouer là-dessus, mais je maintiens que les symboles ont leur importance. On a des fois ici parlé aussi de l'éclairage de l'Élysée, de l'éclairage des ministères, etc. Là aussi, c'est pas les ampoules de Monsieur Macron qui réchauffent le climat, mais il faut aussi que dans les bâtiments publics officiels, l'exemple soit aussi montré. Parce que si on veut demander aux Français de faire des choses, il faut aussi qu'ils entendent que le monde économique fait des choses, que le monde politique fait des choses, pour que nous aussi, parce qu'individuellement, on se dit toujours, oh, ils font chier, bah, si je baisse mon chauffage de 1 degré, qu'est-ce que ça va changer, moi?
Moi, je veux voir ma
effectivement, là, c'est l'addition des mois. Bon. Qui peuvent, c'est comme de le dire d'ailleurs, l'addition des mois avec ou sans S, qui pourront permettre d'obtenir des choses. Mais après, évidemment que c'est pas ça. Enfin, ça ne suffira jamais et qu'il faudra des grandes décisions et que de toute façon, il faudra forcément un jour réussir à consommer moins d'énergie, même si on en diversifie la production.
Et puis moi, j'ai pas fait d'enfant, donc j'ai le droit de mettre mon chauffage à 23.
Oh,
ça pollue moins, je pollue moins que vous tous réunis là.
Oh, c'est petit.
Le coup de pouce du jour.
Alors que le prix du train devrait augmenter l'an prochain face à la flambée de l'énergie, le gouvernement entend faire un geste en faveur de certains usagers. D'après le journal Le Parisien, un chèque transport d'un montant de 50 euros pourrait être mis en place et proposé dans le cadre du projet de loi finance 2023. Cette aide ne concernerait pas tous les abonnés des transports en commun, mais uniquement les plus modestes, voire une partie des classes moyennes.
Mais 50 euros
Un chèque
dans l'année, 50 euros.
Ouais, un chèque transport. Comme il y a eu un chèque énergie de 100 euros.
C'est suffisant, ça, Pierre-Edouard.
C'est-à-dire pour les gens qui l'utilisent, j'ai envie, je vais vous faire une réponse à la con, mais pour les gens qui l'utilisent pas, ils seront contents d'avoir 50 balles. Pour ceux qui sont vraiment dans la consommation.
Non, il faudra montrer que tu as un abonnement.
Non, mais pour le coup, voilà, les gens, moi qui ai été abonné Rouen-Paris, mais un abonnement quotidien, c'était 200 ou 250 euros par mois à l'époque, ça remonte à quelques années. J'ai envie de dire 50 euros dans l'année, alors bon, c'était pris en charge à moitié, mais je veux dire 50 euros l'année.
Bah, ça fait un mois d'abonnement si à quelqu'un qui vit à Lille ou à Lyon, ça fait un mois d'abonnement au moins. Hein.
Mais puis ça va peut-être compenser justement l'augmentation qui va être inévitable en 2023 de ces transports. Si déjà ça compense l'augmentation, c'est déjà pas mal pour les familles plus modestes.
Vous êtes d'accord avec ça, Fred Hermel?
C'est un chèque de plus, quoi. Ouais. En fait, c'est la République des chèques. Voilà, les chèques, énergie.
Il est nécessaire quand même.
Oui, non, mais très bien, mais qui va payer à un moment? À un moment, ça a plus marché là. Non, mais je veux bien, moi je suis ravi.
Au moins celui-là, il est fléché. C'est-à-dire, c'est pas comme le chèque alimentaire où ça servait pas du tout à l'alimentation. Donc, ou le chèque énergie que tu reçois et que finalement, en fait,
Là,
c'est un chèque, il est fléché, c'est pour les transports en commun.
C'est combien la dernière fois qu'on a rajouté du fric dans SNCF? C'est combien de milliards là? Hein, la dette de la SNCF qu'on a, c'était il y a quelques années là.
Oui.
Hein, c'est rien que nos impôts.
Ah non, c'est là il y a récemment encore.
Ouais, récemment là, il y a un an.
Ça s'appelle la solidarité, Fred.
Non, la solidarité, c'est-à-dire que nous citoyens, nous avons renfloué les caisses de la SNCF.
Oui.
Hein, je sais ça, avec nos impôts. Et finalement, SNCF, ça va être encore très cher. Donc on va avec nos impôts, on va s'en fournir des trucs.
Parce que c'est ce qu'on a dit hier, le transport en commun coûte beaucoup plus cher que ce que tu payes avec ton billet.
Non, mais je te parle pas de ça. Je te parle que l'État a renfloué la SNCF.
Ah oui.
La mauvaise gestion de la SNCF a été renflouée par nous. Donc non seulement ils font pas bien leur boulot,
manque d'investissement aussi.
Non,
mais je veux dire, à un moment, la SNCF, elle est déficitaire. Il y a peut-être un problème de gestion.
Oui.
On renfloue les caisses.
Oui,
et là, on va être encore obligé de payer parce que c'est plus cher.
Rare que je défende la SNCF, mais ça fait aussi des décennies. Non, c'est vrai. Et ça fait des décennies aussi que l'État n'a pas investi dans les structures de la SNCF. Et forcément,
c'est comme EDF où le patron d'EDF disait, c'est sympa, on me reproche de pas réparer suffisamment les centrales nucléaires. On a demandé de licencier les mecs qui voulaient le faire. Si on est dans les gestions de l'État, la petite semaine, il faudrait gérer avec de la hauteur. On sait bien que c'est le temps politique n'est pas le temps de la hauteur.
On va certainement parler de football, de France-Autriche, chez Vincent Moscato, le super Moscato Show. Salut Vincent.
Oh, vous n'avez pas peur de balancer là.
Les chèques
par-ci. Moi j'attends toujours mon chèque vacances. Je vais en vacances à Saint-Barth, je devais avoir un chèque de 25 000. Au moins un chèque de 25 000, j'ai rien touché. Chèque vacances de 25 000.
C'est 60 euros, je crois.
Qu'est-ce que je fais? Je bois même pas un café entre le jet pour y aller tout seul. Non, j'en ai marre de ces restrictions. J'en ai marre de tous ces pauvres. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Bon, alors, on va parler de Pablo Longoria. Est-ce que c'est un bon président pour l'OM? Oui, je vous pose la question.
Oui, ben oui, certainement, oui.
Certainement, attention, il faut envoyer du bois là.
Estelle,
Hurtel, ce basketteur,
on en a parlé.
C'est le moment. Oh, l'embrouille. Il se prive des Jeux Olympiques, Franco.
Bah,
le mec
prive.
Signe en pleine guerre en Russie. Bon, c'est un choix.
Il signait parce qu'il était bien mieux payé là-bas qu'ailleurs, j'imagine.
Ah, l'oseille, toujours l'oseille.
Ah bah, oui, oui.
Ouais, enfin, je sais pas comment vous faites pour penser qu'à l'argent, mais alors, je ne sais pas. Et puis, en plus, on parlera de Deschamps. Ah. Est-ce qu'il a mis un râteau définitif à Giroud?
Je sais pas.
Ah, tu sais pas. Ah, mais tu sais pas, mais tu vas écouter le Moscato Show.
Tu sais quoi, je
avec Fled Elmel, tu vas écouter le Super Moscato Show et tu vas voir.
Et ben, je n'espère pas que ce râteau est définitif.
Mais moi non plus.
Ah, il mériterait. Ah, il mérite. Bah, ouais.
Ah, et puis quand t'as
il mériterait de faire la Coupe du Monde.
Et puis t'as vu ce physique, cette tête à la Hélène Delon, quand t'as ça sur la photo, ça fait pas dégueulasse quand même.
Ouais, ça, je pensais pas à ça.
Ah, mais si, quand même, un peu quand même. Oh, il est joli. On dirait, il me fait penser à un navigateur. Je sais pas auquel navigateur.
Allez,
non, mais je ne sais plus à qui.
Mais alors, comment il s'appelle? Le Super Moscato Show, c'est dans un instant. Et nous, on revient demain. Estelle, midi 15h sur RMC Story. Salut.